Chapitre 3. Richard s'agenouilla près de l'endroit où il avait dormi et entreprit de fourrer des vêtements dans son sac. La bruine qu'il apercevait derrière la fenêtre ne semblant pas susceptible de cesser bientôt, il jugea plus prudent de ne pas empaqueter son manteau.
« Tu fais quoi exactement ?»
demanda Nietzsche. Le sourcier repéra un morceau de savon à portée de sa main et s'en empara. « Tu répondrais quoi à ta propre question si on te la posait ?» Richard avait perdu trop de temps, des jours entiers, et il ne lui en restait plus à gaspiller. Après avoir rangé dans son sac le savon, des sachets d'herbes et d'épices en poudre et une petite réserve d'haricots secs, il enroula sommairement sa literie. Renonçant aux questions et aux objections, Kara était déjà en train de faire son propre pactage. « Tu te moques de moi, Richard, et tu le sais très bien. » Nietzsche s'agenouilla près de son patient, lui prit le bras et le força à se tourner vers elle. « Tu ne peux pas partir. Il te faut du repos après avoir perdu tant de sang. Pour le moment, tu es trop faible pour aller à la chasse aux fantômes. » Se dégageant afin de nouer une lanière de cuir autour de son sac de couchage, Richard ravala une réplique cinglante et souffla « Je suis en pleine forme ». Une exagération bien entendu, mais il ne se sentait pas si mal que ça. Nietzsche avait brûlé beaucoup d'énergie pour le sauver. Rongée par l'inquiétude, elle était épuisée et probablement hors d'état de réfléchir clairement. Dans ces conditions, on pouvait comprendre qu'elle juge irresponsable le comportement de son ami. Peut-être. Cela dit, il était blessé qu'elle ne lui accorde pas plus de crédit.
« Tu n'as pas conscience de ton état !»
cria-t-elle soudain en saisissant à pleine main un pan de la chemise de Richard.
« Tu risques ta vie, m'entends-tu? Ton corps a besoin de récupérer. Une convalescence de 2 jours n'a aucun sens, il te faut du temps !»«
Et combien en reste-t-il à Callan, d'après toi ?» Richard prit Nietzsche par le bras et l'attira vers lui.
« Elle est seule quelque part et elle a de gros ennuis. »
« Tu refuses de l'admettre, tout comme Kara, mais il en va différemment pour moi. Tu crois que je me reposerai pendant que la femme que j'aime est en danger? Si tu avais des problèmes, aimerais-tu que je baisse les bras si facilement? Ne voudrais-tu pas que j'essaie de te porter secours? Même si j'ignore quoi, quelque chose cloche. Si j'ai raison, et c'est le cas, les implications et les conséquences de cette histoire me glacent les sangs.
Que veux-tu dire?
Si tu as raison... Je me lance à la poursuite d'un spectre, voilà tout. Puisque Kara et toi ne pouvez pas souffrir des mêmes troubles psychiques, si c'est moi qui ai raison, il est évident que la cause de ces événements, ou leur source, est une menace pour nous tous. Je ne peux pas passer des jours et des jours à tenter de vous convaincre, Kara et toi, parce que l'enjeu est bien trop important. Sans compter que j'ai déjà perdu trop de temps. Secoué par cette tirade, Nietzsche en resta muette quelques instants. Richard la lâcha et acheva de faire son pactage. Face à une terrible urgence, il ne pouvait pas s'offrir le luxe d'enquêter sur ce qui arrivait à ses deux compagnes. La magicienne recouvra enfin sa voix.
« Richard, ne vois-tu pas dans quel piège tu tombes? Te voilà en train d'inventer des notions absurdes pour justifier ton désir de croire en l'incroyable. Comme tu l'as dit, Kara et moi ne pouvons pas être folles de la même manière. » « Reste ici et repose-toi. Nous travaillerons ensemble sur le rêve qui s'est si profondément enraciné en toi et nous finirons par trouver une solution. Il y a sûrement un rapport avec la magie soustractive. Si c'est vraiment ça, je te prie de m'en excuser. En attendant, reste ici avec nous, je t'en supplie. »
Le point aveugle, comme toujours. Nietzsche était focalisé sur ce qu'elle avait devant le nez et elle ne voyait plus le reste. Richard se souvint de ce que Z lui disait quand il était petit. « Pense à la solution, pas au problème. » Dans le cas présent, la solution était de trouver Callan avant qu'il soit trop tard. Si le vieux sorcier avait été là, il aurait sans doute pu donner un coup de pouce à son petit-fils, qui ne savait pas par où commencer ses recherches.
« Tu n'es pas guéri, loin de là, »
dit Nietzsche tout en écartant la tête pour esquiver les gouttes d'eau qui sourdaient du toit.
« Dépasse tes limites et ça te coûtera la vie. »«
Je comprends. »«
Non, vraiment, sans me moquer de toi. »
Richard vérifia l'état de la lame de son couteau puis le rengaina. « Je tiendrai compte de ton conseil. Autant que possible, je me ménagerai.
Richard, écoute-moi.
Nietzsche se massa furieusement les tempes comme si sa tête menaçait d'exploser.
L'enjeu est tellement important. Richard, tu n'es pas invincible. Tu portes l'épée de vérité, certes, mais elle ne peut pas te protéger de tout et à tout moment. Tes ancêtres, une longue lignée de seigneurs râles, étaient des sorciers accomplis et ça ne les empêchait pas de s'entourer de gardes du corps. Tu es né avec le don, je sais, mais même si tu avais les compétences pour t'en servir, ce ne serait pas une protection suffisante, particulièrement en ce moment. Ce carreau nous a montré à quel point tu es vulnérable. Si important que soit un homme, Richard, il reste un être humain, fragile. Nous avons tous besoin de toi, ne l'oublie pas. Si tu nous fais défaut, nous risquons de tout perdre. »
Gêné par l'angoisse qui se lisait dans le regard de Nietzsche, Richard détourna les yeux. Contrairement à ce qu'elle pensait, il savait très bien qu'il était vulnérable. La vie restait son bien le plus précieux et il ne la tenait pas pour acquise. Afin de la préserver, il ne se plaignait quasiment jamais que Kara le suive comme son ombre. Comme les autres morts de site et les divers protecteurs dont il avait hérité, elle avait prouvé sa valeur en plus d'une occasion. Mais cela ne signifiait pas qu'il était incapable de survivre seul, ni que la prudence devait l'empêcher de faire ce qui s'imposait. Cela dit, il comprenait très bien le point de vue de Nietzsche. Pendant son séjour au palais des prophètes, il avait découvert que les sœurs de la lumière le tenaient pour la figure centrale de très anciennes prophéties. À les en croire, beaucoup d'événements dépendaient de lui. Selon les sœurs, leur camp gagnerait exclusivement si c'était lui, Richard Rall, qui le conduisait à la bataille. Une prophétie affirmait que tout serait perdu sans lui. Du coup, la dame abbesse, Annalina, avait consacré une grande partie de sa longue vie à tirer les ficelles dans l'ombre, afin d'assurer que le sourcier vienne au monde, survive et soit un jour le chef suprême des armées opposées à l'ordre impérial. Pour Anna, c'était clair, tous les espoirs reposaient sur les épaules de Richard. Sur ce point, Callan avait remis les idées en place à la dame abbesse, et son mari lui en était très reconnaissant. Mais il savait que d'autres gens le prenaient pour le sauveur du monde, et même si ce n'était pas le cas, il fallait reconnaître que combattre pour lui avait souvent stimulé les ardeurs des défenseurs de la liberté. Dans les catacombes du palais des prophètes, Richard avait vu quelques-uns des recueils de prophéties les plus importants et les mieux gardés. Ces textes avaient quelque chose d'étrange et de troublant, il fallait bien l'admettre, mais, au bout du compte, les prophéties restaient des charades qui disaient très exactement ce que les gens avaient envie qu'elles disent. Richard avait une expérience personnelle des prédictions les concernant, Callan et lui. La voyante Chota en avait produit un tombereau, et tout s'était révélé d'une parfaite inutilité, dans le meilleur des cas, puisqu'il arrivait qu'une prophétie, par son existence même, provoque une catastrophe qui ne serait pas arrivée si elle n'avait pas été prédite. Richard eut un sourire un peu forcé. Nietzsche, on croirait entendre le sermon d'une sœur de la lumière. L'ancienne maîtresse de la mort ne sembla pas trouver la remarque très drôle. Kara sera avec moi, donc je ne risquerai rien. Dès qu'il eut dit sa dernière phrase, Richard s'avisa que la présence de la mort de Sith ne l'avait pas empêché de recevoir un carreau dans la poitrine. Mais au fait, où était Kara pendant cette bataille? Il ne se souvenait pas de l'avoir vue. Pourtant, elle ne ratait pas une occasion de se battre et un attelage de 10 chevaux n'aurait pas suffi à l'attirer loin d'un endroit où son seigneur avait besoin d'elle. À l'évidence, elle avait dû lutter à ses côtés. Dans ce cas, pourquoi ne l'avait-il pas aperçue? Richard ramassa son large ceinturon de cuir et le boucla autour de sa taille. Plusieurs pièces de sa tenue, dont ce ceinturon, avaient appartenu jadis à un sorcier de guerre. Il les avait découvertes dans la forteresse du sorcier, le fief de la magie que Zed, en ce moment même, défendait pied à pied contre les hordes de pillards de l'empereur Jagang. Nietzsche lâcha un soupir impatient, voire agacé. Un aperçu d'une facette de sa personnalité que le sourcier connaissait hélas trop bien. Quand elle le voulait, cette femme pouvait être dure et impitoyable, mais aujourd'hui elle se faisait tout simplement du souci pour un ami.
« Richard, Nous ne pouvons pas nous permettre un tel, eh bien, gaspillage de temps. Nous devons parler de sujets très importants. Tu te souviens? C'était la raison de notre rendez-vous. As-tu reçu ma lettre?
Le sourcier fouilla dans ses souvenirs. Une lettre de toi?
Oui, ça me dit quelque chose. J'ai eu ton message et je t'ai envoyé une réponse par l'intermédiaire d'un soldat que Callan avait touché avec son pouvoir.
Richard surprit le regard que Kara coula à Nietzsche, une façon de dire qu'elle ne se souvenait pas du tout de cet épisode. Nietzsche dévisagea longuement le sourcier.
Moi, je n'ai jamais reçu ton message.
Étonné, Richard fit un geste dans la direction générale du Nouveau Monde. Sa mission principale était d'aller vers le nord et d'assassiner Jagang. Ayant été touché par une inquisitrice, il a sans doute préféré la mort à l'échec. S'il n'a pas pu te trouver, il s'est sans doute lancé sur la piste de l'empereur, à moins qu'il lui soit arrivé malheur avant. L'Ancien Monde n'est pas un endroit très sûr.
À l'expression de Nietzsche, Richard comprit qu'elle pensait qu'il déraillait de plus en plus.
« Même dans tes rêves les plus fous, dit-elle, as-tu jamais cru que nous pourrions éliminer si facilement celui qui marche dans les rêves ?»«
Non, bien sûr que non. »
À travers la toile, Richard modifia la position d'une casserole dans son sac. « Nous pensions que cet homme se ferait tuer avant d'avoir atteint son objectif. » Nous lui avions confié une mission suicide parce que c'était un boucher qui méritait la mort. Cela dit, il avait quand même une minuscule chance de réussir, ou au moins d'empêcher Jagang de dormir pendant un moment s'il voyait un assassin potentiel en chacun de ses hommes.
Le regard de Nietzsche et son calme à l'évidence forcé signalèrent à Richard qu'elle ne croyait pas un mot de son discours. Pour elle, c'était un fantasme de plus, visant à affirmer l'existence d'une femme imaginaire.
Richard se souvint soudain d'autres événements.
Très peu de temps après que Sabar nous eut remis ta lettre, nous avons été attaqués. Le pauvre Sabar a été tué dans cette escarmouche.
Richard interrogea du regard Kara, qui eut un hochement de tête affirmatif.
Par les esprits du bien, soupira Nietzsche,
ému d'apprendre la triste fin du jeune homme.
Richard aussi avait eu de la peine. Dans sa lettre, Nietzsche l'avertissait que Jagang transformait en armes des sorciers et des magiciennes, une pratique courante lors des grandes guerres des millénaires auparavant. Depuis, la chose était réputée impossible, mais en utilisant les sœurs de l'obscurité prisonnières dans son camp, Jagang avait trouvé un moyen de contourner les lois de la nature. Pendant la fameuse escarmouche, la lettre de Nietzsche était tombée dans un feu et le sourcier n'avait pas eu le temps de la lire en entier. Mais il était arrivé assez loin dans sa lecture pour mesurer le danger.
Richard voulut approcher de la table pour récupérer son arme, mais Nietzsche vint se camper devant lui.
« Je sais que c'est dur pour toi, mais il faut en finir avec ce rêve, parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons parler. Puisque tu as lu mon message, tu sais au moins que tu ne peux pas. »
« Nietzsche !» coupa Richard. « Je dois partir !»
Il posa une main sur l'épaule de son ami et tenta de parler calmement mais assez fermement pour mettre un terme à la polémique.
« Si tu venais avec nous, nous pourrions converser en chemin et ça ne m'empêcherait pas d'accomplir mon devoir, car il y a urgence pour moi et pour Callan. »
Sans violence, le sourcier écarta Nietzsche et gagna la table. Tandis qu'il refermait la main sur le fourreau de son épée, il se demanda un instant pourquoi il avait cru, en se réveillant, que l'arme était posée sur le sol à côté de lui.
« C'était sans doute un fragment de rêve, » conclut-il. De toute façon, il n'avait pas le temps de réfléchir à des sujets si futiles. Il enfila son vieux baudrier en cuir, ajusta la position du fourreau sur sa hanche gauche, puis s'assura que tout tiendrait bien en place.
Entre le pouce et l'index, il saisit la poignée de l'épée et la dégaina sur quelques pouces d'acier. Pas uniquement pour être certain que l'arme coulissait bien, mais aussi pour vérifier l'état de la lame.
Richard ne gardait aucun souvenir du combat, et il n'avait sûrement pas eu la possibilité de s'occuper de l'épée. De fait, l'acier poli brillait sous une fine couche de sang séché.
Des images de la bataille défilèrent dans la tête de Richard.
L'attaque l'avait surpris. Mais, une fois l'épée dégainée, cet élément n'avait plus eu aucune importance, car la colère induite par la magie avait tout balayé. Cependant, combattre à 1 contre 100 n'avait pas été simple, magie ou pas. Nietzsche avait parfaitement raison, il n'était pas invincible. Peu après que Callan fut entré dans sa vie, Richard avait été nommé sourcier par Zed, qui lui avait remis l'épée de vérité. Au début, il détestait l'arme parce qu'il n'avait pas cerné sa véritable nature. Zed lui avait alors expliqué que l'épée était un outil, rien de plus. Seul comptaient les intentions de l'homme qui la maniait. Il en était ainsi avec toutes les armes, et ça se vérifiait particulièrement avec celle-là. L'épée était désormais liée à Richard, à sa volonté et à ses intentions. Depuis le début, il avait pour objectif de protéger ses proches. Pour réussir, avait-il fini par comprendre avec le temps, il devait contribuer à l'avènement d'un monde où les siens pourraient vivre en paix et en sécurité. Cet objectif conférait une grande importance à l'épée. L'acier émit un long sifflement lorsque Richard rengaina la lame. Aujourd'hui, son but était de retrouver Callan. Si son arme pouvait l'aider à réussir, il n'hésiterait pas un instant à s'en servir. Soulevant son sac à dos, le sourcier le mit en place sur ses épaules, puis jeta un coup d'œil dans la sinistre pièce pour voir s'il n'avait rien oublié. Près de la cheminée, il repéra quelques lanières de viande séchée et 3 ou 4 biscuits de voyage. Les assiettes creuses de voyage étaient là aussi, l'une contenant du bouillon et l'autre un reste de flocons d'avoine. Richard ramassa 3 outres pleines qu'il mit en bandoulière sur son épaule gauche. « Kara, rassemble toute la nourriture transportable et n'oublie surtout pas nos assiettes. » La mort de Sith obéit avec une froide efficacité. Maintenant qu'elle était sûre de partir avec son seigneur, elle avait recouvré toute son équanimité.
« Richard, » insista Nietzsche, « nous devons parler, c'est très important. »«
Dans ce cas, fais ce que je t'ai demandé, accompagne-nous. » Le sourcier prit son arc et son carquois. « Si tu ne nous ralentis pas, nous bavarderons pendant des heures. » Nietzsche décida de capituler. Avec un soupir accablé, elle fila dans la chambre afin de faire son pactage. Qu'elle vienne n'ennuyait pas Richard. Bien au contraire, il s'en réjouissait car la magie de son ancien ennemi l'aiderait à retrouver Callan. Pour tout dire, rejoindre Nietzsche et lui demander de l'aide avait été sa première idée lorsqu'il s'était réveillé avant l'attaque et avait constaté l'absence de sa femme. Après avoir pris son manteau, qu'il se contenta de jeter sur ses épaules, le sourcier se dirigea vers la porte. Toujours agenouillé près de la cheminée où elle finissait son pactage, Kara leva les yeux et fit signe à son seigneur qu'elle lui emboîterait vite le pas. Dans la chambre, Nietzsche se pressait tellement qu'elle produisait un boucan d'enfer. L'absence de Callan minait la résistance nerveuse de Richard, qui devenait de plus en plus le jouet de ses angoisses. Il imaginait que sa bien-aimée souffrait et qu'elle l'appelait au secours. L'idée de la savoir seule, quelque part, et sans nul doute en danger, l'emplissait de terreur. Assez logiquement, le souvenir du soir où des brutes l'avaient frappée et laissée pour morte remonta à sa mémoire. Abandonnant tout, il était parti vivre avec Callan sur le flanc d'une montagne où nul ne les trouverait. Ainsi, elle avait pu guérir et redevenir lentement elle-même. L'été de la résurrection de sa femme resterait à jamais une des plus belles périodes de la vie de Richard. Hélas, Nietzsche avait tout gâché en le capturant pour le conduire de force dans l'ancien monde. Comment Kara pouvait-elle avoir oublié de tels événements? C'était incompréhensible. Par réflexe, juste avant de sortir, Richard fit de nouveau coulisser l'épée de vérité dans son fourreau. Une lumière maussade l'accueillit dehors, et il eut à peine le temps de faire un pas avant de marcher dans une flaque de boue. Les œuvres néfastes de l'eau qui s'accumulaient sur le toit puis ruisselaient le long de l'auvent. Richard sentit des gouttes glacées s'écraser sur le sommet de son crâne. Pour se consoler, il songea qu'un orage aurait été encore pire que cette bruine, somme toute clémente. À la lisière du petit champ où se dressait la ferme, de lourds nuages pesaient comme un couvercle sur les hautes branches des premiers pins de la forêt. Évoquant des spectres, Des colonnes de brume s'abandonnaient aux assauts du vent entre les grands troncs torturés qui projetaient leur ombre sur le monde. Richard était furieux qu'il pleuve. Par un temps sec, sa tâche aurait été 10 fois plus simple. Cela dit, il ne fallait pas baisser les bras parce qu'un bon guide forestier pouvait suivre une piste dans n'importe quelle condition. La pluie lui compliquerait les choses, mais après tout, il avait passé des années à pister des animaux et des gens dans la forêt. Il devrait se concentrer davantage que d'habitude, et voilà tout. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Une idée plutôt encourageante. Dès qu'il aurait trouvé la piste de Callan, il aurait une preuve de son existence. Nietzsche et Kara seraient bien obligés de se rendre à l'évidence. Chaque individu laissait des traces bien spécifiques. Il savait comment identifier celle de sa femme, et il connaissait le chemin par lequel elle était venue puisqu'ils l'avaient emprunté ensemble. La piste de Callan serait donc visible à côté de la sienne et de celle de Kara. Nietzsche et la mort de Sitte devraient renoncer à leur fantaisie, c'était évident. Pour la première fois depuis son réveil, Richard se sentit bien. L'effet du soulagement. Dès qu'il aurait trouvé des signes flagrants de l'existence de sa femme, ses deux comparses cesseraient de le regarder comme s'il avait perdu la tête. Comprenant enfin qu'il n'avait pas rêvé, elle prendrait conscience que quelque chose n'allait pas du tout. Après cette démonstration, Richard pourrait sortir du camp, remonter la piste de Callan et la retrouver. La pluie le ralentirait, mais elle ne l'arrêterait pas et Nietzsche l'aidait un peu avec son pouvoir. Les hommes qui attendaient dehors se précipitèrent vers le sourcier dès qu'ils l'aperçurent. Ces combattants n'étaient pas de véritables soldats. Il s'agissait de conducteurs de chariots, de meuniers, de charpentiers, de maçons, de fermiers et de marchands qui souffraient depuis des décennies sous le joug de l'ordre, peinant pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Pour la majorité de ces travailleurs, l'ancien monde était devenu une sorte de bagne où régnait la terreur. Tous ceux qui osaient s'insurger contre l'ordre impérial étaient arrêtés, accusés de subversion et exécutés. En matière de fausses charges, les procureurs du régime n'étaient jamais à court d'imagination. Une forme expéditive de justice qui incitait les citoyens à courber l'échine. Un endoctrinement incessant, en particulier pour les jeunes, poussait une partie de la population à adhérer aveuglément à la philosophie de l'ordre. Dès leur plus jeune âge, les enfants entendaient répéter que penser par soi-même était un sacrilège. On leur vantait les mérites du sacrifice de soi, pour le bien-être du plus grand nombre, évidemment, en leur faisant miroiter une éternité de béatitude sous la lumière du Créateur, après un bref passage dans cet horrible monde. Toute personne qui doutait du dogme ou qui refusait de participer à la grande œuvre collective était promise à d'infinis tourments dans le royaume des morts. Les fidèles de l'ordre, et ils étaient légion, refusaient jusqu'à l'éventualité que les choses changent un jour. Les promesses d'égalité, quand toutes les richesses seraient enfin équitablement partagées, rendaient en fait les élateurs du système avides d'avoir leur ration de sang innocent. Ils étaient prêts à tout, même à lyncher pour dépouiller de leurs biens injustement gagnés les oppresseurs qui s'engraissaient sur le dos du peuple, car à leurs yeux, il n'existait pas de pire péché. Ces fanatiques qui se tenaient pour des justes envoyaient avec joie leurs fils grossir les rangs de la glorieuse armée de l'ordre. Fanatisés eux-mêmes, ces jeunes gens massacraient avec enthousiasme les incroyants et les prévaricateurs. Appâtés par un fabuleux butin, encouragés à donner libre cours à leur brutalité et à leurs plus bas instincts, car violer les femmes inférieures était considéré comme un acte héroïque, ces soldats se transformaient très vite en une bande de sauvages déchaînés, des bouchers qui s'égorgeaient volontiers entre eux quand ils n'avaient personne d'autre sous la main. Et ces hordes, après avoir conquis une bonne partie du Nouveau Monde, menaçaient à présent les patries respectives de Callan et de Richard. Des âges sombres s'annonçaient, et rien ne semblait pouvoir s'opposer à leur avènement. Rien, peut-être, mais pas personne. Car selon Anna, l'ancienne dame abbesse des Sœurs de la Lumière, Richard était venu au monde pour combattre la tyrannie. Comme bien d'autres gens, elle croyait que le sourcier était l'unique chance de vaincre du Nouveau Monde. Pour que la liberté triomphe, il fallait qu'il combatte en première ligne. Les hommes qui entouraient aujourd'hui le seigneur Rall avait su voir ce que dissimulaient les beaux discours de l'ordre. La dictature, rien de plus ni de moins. Du coup, ils avaient décidé de reprendre en main leur vie, et cela faisait d'eux des combattants de la liberté. Des acclamations saluèrent le retour du sourcier parmi ses frères d'armes. Massés autour de lui, les hommes s'enquirent de sa santé et l'assurèrent qu'ils feraient tout pour le soutenir. Touché par leur sincérité, Richard prit le temps de leur sourire et de taper dans les mains des courageux résistants qu'il avait rencontrés en Alterrang pendant sa captivité. Parce qu'il avait travaillé avec certains de ces hommes et tissé des liens d'amitié avec quelques-uns, Richard savait qu'il était pour eux la vivante incarnation de la liberté. Le seigneur Hal, venu du Nouveau Monde, un endroit où les hommes et les femmes étaient libres du jour de leur naissance à celui de leur mort. Grâce aux sourciers, ils savaient désormais que leur rêve était réalisable. On pouvait vivre autrement qu'à genoux, les yeux baissés pour ne pas risquer d'être accusé d'arrogance par ses maîtres. Au fond de lui, Richard continuait à se voir comme un simple guide forestier. Après avoir été nommé sourcier, puis être devenu le maître de l'Empire d'Aran ne changeait rien à ses yeux. Malgré les épreuves traversées ces deux dernières années, il était resté le même homme, avec des convictions et des rêves identiques. Aujourd'hui, il devait affronter des armées, plus des jeunes coqs de village abrutis. L'échelle était différente, mais le fond du problème restait le même. Pour l'instant, cependant, une seule chose l'intéressait. Retrouver Kalan. Sans elle, le reste du monde et la vie en elle-même n'avaient pas grand intérêt. Appuyé à un poteau à l'écart de la foule, un colosse jetait sur la scène un regard menaçant qui contrastait avec l'allégresse ambiante. Les bras croisés, il semblait impatient que la cérémonie des retrouvailles s'achève. Richard fendit sa foule de fidèles pour aller retrouver le forgeron à l'humeur maussade.
« Victor !»
cria-t-il. Aussitôt, un sourire de petit garçon s'épanouit sur les lèvres du géant aux muscles saillants.
« Nietzsche et Kara ne m'ont autorisé que deux visites, » dit-il en serrant la main de Richard. « Si elles avaient tenté de m'empêcher de te voir ce matin, je leur aurais noué des barres de fer autour du cou.
Quand on m'a amené ici, c'est toi qui m'as tapoté l'épaule ?»
« Qui d'autre, selon toi? J'ai aidé à te porter jusqu'ici. »
Il posa une main sur l'épaule du sourcier et le secoua doucement.
« Tu as l'air solide, mais qu'est-ce que tu es pâle? J'ai du lardo, ça te redonnera des forces. »«
Je vais bien, Victor. Pour le lardo, nous verrons plus tard. Merci de m'avoir transporté. Et maintenant, dis-moi, tu as vu Kalan ?»«
Qui ça ?»«
Ma femme. »
Victor en resta bouche bée. Pour se donner une contenance, il se passa une main dans les cheveux, coupés si courts qu'on aurait pu le croire chauve.
« Richard, tu t'es marié depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ?»
Les tripes nouées, le sourcier se tourna vers les autres combattants.
« L'un de vous a vu Kalan ?»
La plupart des hommes ne bronchèrent pas. Quelques-uns échangèrent des regards interloqués avec leurs compagnons. Tous s'étaient tus, sentant que quelque chose n'allait pas. Une bonne partie de ces types connaissait Kalan et ne pouvait pas l'avoir oublié. Pourtant, il hochait la tête, l'air désolé ou haussait les épaules en guise d'excuse. Richard encaissa mal ce nouveau coup du sort. Le problème était plus grave qu'il l'avait cru. Kara et Nietzsche n'étaient pas les seules victimes d'une inexplicable amnésie.
« Victor, j'ai des ennuis et pas le temps de tout expliquer. D'ailleurs, je ne saurais pas vraiment comment m'y prendre. Bref, j'ai besoin d'aide.
Que puis-je faire ?
Me conduire jusqu'au site de la bataille.
Un jeu d'enfant, mon vieux. »
Le forgeron se mit en route et Richard lui emboîta le pas.